Comment traverser sa colère? Voici un enseignement du père Pierre-Marie Castaños, enregistré lors du festival Marial au mois de juillet 2022 à Notre-Dame-du-Lot. Comment traverser sa colère? Le père Pierre-Marie Castaños.
La colère, c'est une émotion, et c'est une émotion qui est ambiguë. C'est une émotion qui est ambiguë dans le sens où, à la fois, vous trouvez des choses positives, dans le sens où la colère comme une exaspération face à l'injustice, et à la fois des choses négatives, comme la colère comme un péché capital. Vous savez la définition d'un péché capital ? Quelle est la différence entre péché capital et péché mortel ? Il y a sept péchés capitaux, mais tous ne sont pas mortels. Par exemple, la gourmandise, le péché capital, la définition, c'est capital, c'est-à-dire capitus, caput capitis, c'est-à-dire qui a la tête d'autres péchés. Par exemple, je suis en colère et j'assassine quelqu'un. Tac, 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 l'effet domino. L'orgueil, j'arrive à mentir par orgueil. Donc je suis... c'est ça qui est intéressant. Alors je trouve ça, personnellement, c'est cette notion-là qui est assez classique. Je la questionne. Je la questionne parce que la colère, c'est parmi les péchés capitaux, c'est la seule qui est une émotion. La seule qui soit une émotion. Les autres péchés capitaux, l'orgueil, la gourmandise, etc., ce sont des actions, ce n'est pas des émotions. Et pour moi, les émotions, elles sont neutres. Alors vous entendrez, et c'est pour ça, c'est ambivalent, parce que vous entendez d'un côté Saint Paul qui vous dit « rejetez tout cela en colère, emportement hein, », et le Christ va jusqu'à dire « bienheureux les doux ». Ils auront la terre en héritage. Bon. Et Saint François de Sales qui dit, je vous le dis nettement, sans exception, ne vous courroucez point du tout. Voilà, donc c'est intéressant. Ne point s'irriter quand il faut et ne pas vouloir faire une correction fraternelle est un péché. Et vous, d'un côté, vous allez dire, celui qui ne s'irrite pas, celui qui ne réagit pas face à l'injustice, celui-là commet un péché. Vous avez les deux. C'est ça qui est étonnant. C'est à la fois, ne vous courroucez pas, ne vous irritez pas, bienheureux les doux. Et à la fois, vous avez celui qui ne s'irrite pas, commet un péché. Et vous avez le psalmiste qui dit, la colère des hommes te rend gloire. La colère des hommes te rend gloire, psaume 76. Hein, et puis, évidemment, vous vous rappelez, Jésus... Quand est-ce qu'il a été en colère, Jésus ? Marchant du temple et promenant sur eux un regard de colère. Vous avez promenant sur eux un regard de colère, c'est en Marc 3, 5. C'est la seule fois où le mot colère est dit dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, même dans l'Évangile. Hein. Voilà. Et du coup, voilà, donc c'est... Et puis, on se rappelle, même s'il n'y a pas le mot colère, dans le récit du marchand des temples, je vous le lis, Jésus monte à Jérusalem, car la Pâque juive est proche. Il entre dans le temple. À l'intérieur, se sont installés des marchands de bœufs, de brebis, de colombes, ainsi que des changeurs. Voyant cela, Jésus fabrique un fouet avec des cordes, les chasse tous du temple avec leurs animaux. Il jette par terre l'argent des changeurs, renverse leur comptoir, enlevez ceci d'ici, car il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. Donc on voit que c'est une notion qui est ambiguë, la notion de la colère, que c'est une émotion. Et quand est-ce que naît cette émotion ? Je trouve ça intéressant de le dire. Et comme toute émotion, elle est neutre. Vous pouvez ressentir de la colère sans forcément passer à l'acte. Je peux ressentir, par exemple, de la jalousie qui est aussi, sans penser à l'acte. Je peux ressentir de la peur ou de la haine, qui est aussi une forme d'émotion, sans passer à l'acte. Une chose est sentir, autre chose est consentir. Vous voyez, et donc je pense que c'est intéressant de dire que c'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise avec le fait que la colère soit un péché originel, parce que même si ça vient de très loin, hein, ça vient de Évagre le Pontique, le 5e siècle. Voilà, donc du coup, voilà, donc je trouve ça. Les émotions, elles sont neutres. Et moi, je questionne un peu quel est le rapport que vous avez eu face aux émotions. Quel est le rapport? Est-ce que vous avez eu un rapport où il fallait que l'émotion soit mettre, comment dire, un couvercle dessus? Et il y a des éducations comme ça. Il y a des éducations où on n'a pas le droit d'être en colère. Surtout des émotions qualifiées comme négatives, si vous voulez. Les émotions qualifiées comme négatives, comme si on n'avait pas le droit parfois de ressentir de la peur, ressentir de la tristesse, qui est aussi une émotion, ressentir de la colère. Et, mais je pense aussi, beaucoup d'entre vous sont enfants, ou en tout cas oncles, tantes, parrains, marraines, parents, etc., ont des plus jeunes à charge, d'une manière ou d'une autre, ou dans votre métier, vous êtes peut-être enseignant. Je pense que c'est important de dire qu'on a le droit d'éprouver des émotions. On a le droit d'éprouver des émotions, on a le droit d'avoir une... de ressentir des choses. Encore une fois, c'est vrai que Jésus, dans l'Évangile, on le voit ressentir, mais plutôt, sauf promenant sur un regard de colère, mais c'est la seule fois où on le voit avec des émotions. L'émotion n'est pas un péché. L'émotion n'est pas un péché. Émotion, c'est dans l'émotion, il y a mouvement, il y a motion, je veux dire mouvement. Il y a mon cœur qui est en mouvement pour quelque chose, de la joie, de la tristesse, de la colère, de la haine. Voilà. Mais je pense que c'est important d'être attentif sur le fait que l'amour est une émotion, le sentiment amoureux est une émotion, mais qui n'est pas l'amour. Vous faites bien la différence entre le sentiment amoureux et l'amour. Le sentiment amoureux, c'est de l'ordre de l'émotion. L'amour, c'est de l'ordre de la volonté qui veut le bien de l'autre. Je peux avoir une émotion pour quelqu'un, je peux tomber amoureux de quelqu'un, mais pas forcément. Mais si je reste que... Il faut une transformation de l'essai, d'une certaine manière. Il faut que cette émotion, elle se transforme en orientation de la volonté. Que ma volonté s'oriente vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je trouve ça, c'est important de... oui, l'amour est une... La joie, par exemple, est une émotion, etc. Mais comme si... tout se passe comme si on ne pouvait que ressentir des émotions positives. Or, il y a dans nous des émotions qualifiées négatives. Et j'allais dire, et ce qui fait qu'on ne s'autorise pas. Ah oui, mes parents aimaient bien quand j'étais joyeux, ok? Et là, j'ai de la tristesse. Est-ce que je peux éprouver et dire que je suis triste? Est-ce que je peux, quelque part, dire que je suis en colère? Est-ce qu'on m'autorise dans mon éducation à exprimer des émotions qui sont qualifiées de négatives? Ce que je trouve dommage personnellement, c'est que comme on a mis positive, négative, du coup il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Or la colère, elle peut être très positive quand elle devient indignation. Et oui, l'indignation est une colère. On voit bien, parce que la colère, on va voir ça, elle naît face à une injustice. Elle est née face à une injustice. Donc, l'indignation, c'est... Peut-être vous avez entendu parler de ce petit livre-là, de... comment il s'appelle, là? Aidez-moi, indignez-vous, là. Edigné Mou, qui est un grand résistant, etc., mais un homme, je pense, qui est décédé maintenant. Stéphane Hessel. Stéphane Hessel. Indignez-vous. Le fait de s'indigner, parce que la colère, elle naît face à une situation injuste. C'est ça qui est intéressant. J'ai le sentiment d'une injustice. Et donc, il peut y avoir des colères justes. Et c'est intéressant à quel prix il y a des colères justes. Premièrement, il y a trois cas où ma colère peut être qualifiée comme juste, quelque part comme sainte colère. Vous avez entendu l'expression sainte colère. Premièrement, quand il y a un vrai mal dont les personnes sont victimes, je vois un vrai mal, une vraie injustice. Il faut qu'ensuite, on prenne un vrai mal. Il faut que mon intention soit droite. C'est-à-dire que quand je réagis, je veux m'opposer au mal. Et enfin, il faut que ma réaction soit proportionnée. Il ne faut pas que ce soit démesuré comme réaction par rapport au mal. Je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui, à tort, est humilié en public. Injustice. En vous, colère. Cette colère, elle est ni bonne ni mauvaise. Qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire, de mettre comme action ? Et donc ça, je crois que ça, injustice, colère, donc je m'assure vraiment que, premièrement, il y a eu un vrai mal, et non pas simplement que ma susceptibilité a été froissée. Par exemple, quelqu'un a dit, prenons un exemple, dans une réunion de groupe, quelqu'un parle à tort et à travers, on lui dit, écoutez, monsieur, madame, intervenez à bon escient, alors là, je sursaute de colère en disant, c'est inadmissible. Non. Oui, il faut intervenir à bon escient. Donc, il faut un discernement par rapport à sa colère. Bien sûr qu'il faut intervenir à bon escient. Mais, donc, il y a un discernement. Est-ce que c'est vraiment un vrai mal ? Est-ce que la personne a vraiment... prenons un exemple, je prends quelques exemples dans le bouquin là. Par exemple, un curé, voilà. Prenons le cas d'un curé d'une église profanée. Vous apprenez comme paroissien que votre pasteur ne décolère pas. Vous allez le soutenir, car ce doit être dur pour un prêtre de voir son église avec les bancs renversés, le tabernacle fracturé, les ossies répandues par terre sur le sol. Donc, vous voyez, vous entendez le curé, oui, c'est admissible, etc. Attendez. Or, quand vous rentrez dans l'église, tout est en ordre. Vous allez voir le curé, il s'étouffe de colère en vous racontant que des fiancés ont choisi de prendre un chant profane lors de leur cérémonie de mariage. Ben, c'est pas juste, c'est pas proportionné de se mettre en colère quand des fiancés choisissent de prendre un chant qui évoque l'amour lors d'une cérémonie de mariage. On peut leur dire, et réfléchissez, etc. De même, je pense, il y a des personnes dans des cérémonies de deuil, par exemple. Il y a un poème qui est souvent lu, qui est « Je suis dans la chambre d'à côté ». Vous connaissez ?
Oui.
Je suis là. Mais il y a des curés qui deviennent verts. Mais laissez devenir verts. Ça passe après. Vert ou rouge de colère, ben oui, je suis dans la chambre d'à côté, oui, bon, c'est pas religieux plus. Mais c'est pas contre la foi et les mœurs, je veux dire, faut pas charrier quand même, de dire. Je trouve que c'est important de dire que, vous voyez, donc, est-ce qu'il y a, il y a un discernement, est-ce qu'il y a un vrai mal ? Donc, il y a un discernement par rapport à la colère, est-ce que c'est vraiment un mal ? Ou est-ce que juste moi, ma susceptibilité a été froissée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, un discernement. Ensuite, est-ce que j'ai une intention droite ? Par exemple, je prends un exemple, je vous donne un exemple dans le bouquin. Imaginez que vous êtes un collègue de l'homme injustement licencié. Votre courroux vous pousse à faire circuler une pétition contre le chef de service, inique. Mais votre intention secrète est qu'il soit remercié pour prendre sa place. Votre intention, elle n'est pas droite. Oui, peut-être la personne a été remerciée de façon abusive, puis il y a le droit, il y a les tribunaux, il y a des bons... Mais, en fait, mon intention, est-ce qu'elle est droite? Non. Parce que je veux que mon chef de service, il soit remercié. Oui, donc, est-ce que c'est un vrai mal? Est-ce que c'est une intention droite? Et puis, surtout, est-ce que c'est proportionné? Vous êtes une femme handicapée dont on s'est moqué en public et votre rage ne décolère pas, vous n'en dormez pas. Vous connaissez l'auteur des moqueries, vous décidez d'en parler à votre frère, ceinture noire de karaté, pour qu'il donne une bonne correction à celui qui vous a manqué de respect. Cet emportement n'est pas justifié car il pousse à une réaction excessive. Oui, vous êtes handicapé, on vous a moqué dans la rue, etc. Bon, on est dans un état de droit. On ne va pas aller payer un tueur à gages pour descendre le type. Je veux dire, c'est disproportionné. Oui, mais vous voyez combien parfois nos colères... C'est-à-dire qu'il faut un discernement dans la colère. Or, c'est précisément dans la colère qu'on a le moins de discernement. Et c'est ça le problème. C'est le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, que quelqu'un à côté de vous dise « Descends, redescends un peu. » Redescends et qu'on voit les choses ensemble. Tu ne peux pas dire ce que tu dis là. Tu ne peux pas faire ce que tu fais là. Tu ne peux pas désirer ce que tu désires là. Voilà, je crois que c'est important de dire que oui, il y a des justes colères, il y a des saintes colères, à condition que ce soit un vrai mal, à condition que ce soit proportionné, à condition que votre intention elle soit droite, que vraiment vous avez le désir de corriger le tir et de lutter contre une injustice. Pas de vous faire passer en avant et vous mettre en avant d'une manière et d'une autre. Donc on voit bien que dans la Bible, il y a plein de gens en colère. Dans la Bible, c'est intéressant, surtout l'Ancien Testament. Hein. Mais c'est intéressant de dire aussi qu'on peut pécher par manque de colère, ce que je vous ai dit. On peut pécher par manque d'indignation. Hein, il est rare qu'en confession... Attends. Nous nous accusions d'un manque de colère, alors que parfois, c'est un manque d'amour de Dieu et du prochain. Saint Thomas d'Aquin va même jusqu'à dire « Le manque de colère est un vice. Le vice s'oppose à la vertu, car il est défini comme le juste milieu. Hein, » Donc c'est intéressant de dire que si vous êtes face à l'injustice, vous êtes, comment dire, indifférent, vous laissez le faible être humilié, vous laissez la personne de faible condition être injustement traitée et vous ne faites rien. Là, il y a un péché. Là, vous ne ressentez rien, vous n'avez pas... Parce que là, vous n'êtes pas intervenu alors que vous auriez pu ou faire intervenir quelqu'un. Typiquement les forces de l'ordre. Est-ce que c'est un vrai mal? Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que mon intention est droite? Est-ce que c'est à moi, j'ai rajouté un quatrième, est-ce que c'est à moi d'intervenir? Parce que quand on a été blessé soi-même, on est très susceptible. On a beaucoup d'empathie. On a beaucoup d'empathie parce que soi-même, on a été en galère. Vous voyez quelqu'un en galère, tout de suite, vous voire surréagissez. Et je crois que c'est pas, pour le coup, c'est pas juste. Il y a quelque chose qui est pas, il y a une sorte de surréaction. Parce que moi, j'étais en galère et je vois cette mère célibataire, alors que moi, j'étais mère célibataire en galère, etc., qu'on bouscule dans le métro, qu'on moque, etc., ou à l'administration rejette, que sais-je. Et ça fait qu'un tour en vous et puis, voilà, vous explosez. Est-ce que c'est OK, il y a une injustice, donc dans votre tête, vous avez une bonne tête, réagissez. Est-ce que c'est à moi d'intervenir? Je vous donne un exemple. Les gens, vous savez, quand on prend l'avion, peut-être certains d'entre vous ont pris l'avion, on a le droit à une petite valise de cabine. Un monsieur noir de peau se présente et donc il y a un moule, on met la valise dedans, est-ce que ça tient? Bon, on peut comprendre qu'on ne peut pas avoir des valises énormes, on les met en soute, ça c'est normal. Ça dépassait un peu. La personne qui s'est chargée de veiller au bagage humilie la personne noire, dit « arrachez les roues ». Ça dépassait un peu. Et le monsieur, tremblant, d'autres personnes sont intervenues. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est de l'humiliation, voire du racisme. Ils ont été au poste. Il se trouve que c'était un pasteur protestant. Et donc, c'est monté très vite dans les tours, avec ce monsieur qui faisait du zèle, j'en sais rien. C'est un manque de discernement. Moi, s'il y a 3 cm, voilà, on ne va pas être à toi. L'idée, c'est de ne pas débarquer avec une valise de 25 kilos, c'est surtout ça. Ça va en dessous, tout le monde est clair. Mais le fait que ce soit une personne blanche qui a une personne noire, de façon, comment dire, autoritaire, avec une sorte de surplomb, avec une sorte de, voilà, de lui arracher les roues de votre valise, etc., vous ne rentrerez pas, la loi elle est pour tout le monde, etc., vous croyez au-dessus de la loi, etc. C'est parti dans des tours. Il a fallu appeler les forces de l'ordre, forcément, pour calmer le jeu. Du coup, le type qui a le pasteur protestant blanc qui s'est retrouvé dans le bureau de la police, il a raconté les choses comme elles sont passées. Mais vous voyez, donc, quand vous avez... Justement, je trouve ça intéressant de voir que la notion d'injustice... Là, il y avait clairement une injustice. Parce que est-ce qu'il se serait permis la même chose avec une jeune mère de famille blanche? Peut-être pas. Avec 3 enfants à côté, peut-être pas. Vous voyez, je trouve que... la question, du coup, il y a eu colère, bon, ensuite, bon, finalement, il a pu embarquer, il y a eu des excuses de la compagnie, etc., etc., mais quelqu'un, ben lui, ce pasteur protestant, qui est un homme éduqué, qui avait eu, qui avait travaillé sur lui-même, etc., bon, imaginez que ce soit quelqu'un qui vienne de la rue. Là, on ne parle pas, on va directement au baston, quoi. Et je t'explose ta grosse tête de con. Point barre. C'est-à-dire parce que moi, en termes de violence, si tu veux, moi j'en connais 10 fois plus que toi. Parce que moi, je viens de la rue. Mais vous voyez bien que c'est pas approprié non plus comme réaction. C'est pas approprié. Du coup, si vous avez tellement de colère en vous déjà, mais de base, contre les parents, contre les jours sans pain, contre les jours dans la rue, contre l'indifférence de la société, parce que j'étais une femme et j'étais, je sais pas quoi, maltraitée, voire abusée, parce que dès que je me présente un travail, on me monte du doigt, etc. Évidemment, vous surréagissez. Donc vous n'êtes pas forcément la bonne personne pour intervenir. Ou ça demande que vous ayez fait un travail sur vous-même, mais considérable. Considérable. Parce que vous avez tellement de violence en vous. Vous avez tellement de violence en vous. Eh bien, premièrement, l'apaiser. L'apaiser. En tout cas, répondre, c'est ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, hein, vous connaissez le... qui était déjà un plus. C'est pas œil contre vie. Tu me crèves, je te tue. Ben non, ça c'est non. Mais Jésus dit, est-ce qu'au fond, être en contact avec la personne violente, la voir comme une personne, lui parler. Moi, pendant 10 ans, j'étais aumônier de prison en Amérique latine. Et c'était au début de mon ministère de prêtre, j'étais jeune prêtre, même avant j'étais séminariste. Et du coup, je sais que là, j'ai rencontré beaucoup de colère. Bon, je pense à un homme en particulier qui était extrêmement, qui m'insultait dès qu'il me voyait arriver du plus loin, qui me voyait arriver. Et pendant un an et demi, je suis allé à la prison, la boule au ventre. Moi, c'est pas du tout mon univers, la prison. Pas du tout. Personne de ma famille est en prison. Personne n'est dans la marginalité, etc. Forcément, c'était que des gens marginaux, des bidonvilles, etc. Bon, voilà, c'est la réalité argentine où j'ai été. Jusqu'à un moment donné, il y a pour moi eu, paf, il y a quelque chose qui a changé. En fait, je suis là, mais ce n'est pas contre moi qu'il est en colère. C'est contre les jours sans pain, les jours sans amour, hein, les jours sans justice. Tous les moments où on ne s'est pas occupé de lui comme enfant, où il a été lâché dans la rue comme ça, comme une herbe folle. Et donc, oui, ok, moi j'y vais. Je veux bien servir de punching ball. Il ne m'a jamais touché. Mais il y avait une telle violence. Oui, et du coup, et je me suis dit, est-ce que, au fond, ce n'est pas ma mission de religieux aussi d'être là pour recueillir la violence des autres. Pas physique. Mais c'est pas parce que c'est pas physique que c'est pas une violence. Parce que, évidemment, cette personne-là, elle savait parfaitement où appuyer. Par exemple, comme aumônier, j'étais membre du service pénitentiaire. Ah, tu viens pour le fric? Ben non. Moi, j'ai fait des études supérieures. J'aurais pu. Non. Non, mais faut pas répondre. Appuie, parce qu'il sait où ça fait mal. Il savait très bien où ça faisait mal. Jusqu'à un moment donné où on a pu parler. Et j'ai simplement accueilli sa colère sans rien dire. Puis à un moment donné, ça s'est arrêté. La personne qui est en colère, c'est une personne qui est en détresse souvent. Je vous parle de ce cas-là particulier, bon, dans des circonstances particulières, bien sûr. C'est des personnes qui sont en détresse. C'est important de se dire, tiens, quand quelqu'un est en colère, est-ce que ça peut arriver sur la route, par exemple, dans des cas plus communs. Tu vois, voilà, puis le bras d'honneur, compagnie, voilà, mais après il fout le camp comme ça, bon, moi, tu peux pas trop discuter. Quand c'est possible, ne jamais fuir l'homme qui est en colère. C'est pas facile, c'est montrer l'autre regard, ne jamais fuir l'homme qui est en colère. C'est ça, montrer l'autre joue. C'est ça, et c'est chaud. Et c'est chaud, mais est-ce que, ma chère, est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y en a un autre chemin? Sinon, moi aussi je me mets en colère, c'est ce qu'on appelle l'escalade symétrique. Tu te mets en colère, ensuite moi je suis un couteau, lui sur un fusil, je suis un bazooka, ça se termine par la guerre atomique.
Alors, comment vous accueillez la colère de quelqu'un sans être en colère vous-même?
Quoi faire avec la colère qu'on
ressent? Alors, c'est pas une colère pour moi.
Ça fait un couteau
au bout, ça m'a fait. Mais à un moment donné, je me suis dit, cette colère-là, elle n'est pas pour moi.
Elle
n'était pas adressée à moi. Il se trouve que moi, je suis comme religieux en face. Et que, évidemment, s'il se met en colère contre le gardien, allez, il va au Newf. S'il se met en colère contre la famille, il ne revient pas. Contre qui peut-il se mettre en colère tout en sachant qu'il reviendra? De sauveur, mais on est dans une position qu'on appelle basse. Je me mets dans une position basse. C'est-à-dire, je ne cherche pas à le sauver parce que sa colère, mais juste j'accueille. Peut-être, et quand je reviendrai demain, ce sera peut-être pareil. Du plus loin qu'il me voit, il me hurlera.
Et comment vous avez fait pour vous prendre des
assurances? Je me dis, cette colère, pour moi, comment j'ai fait? Elle n'est pas pour moi.
Mais comment vous avez fait pour faire qu'elle n'est pas pour vous?
Parce qu'elle n'était pas pour moi. Non, mais... ah non, mais c'est important. Elle n'était pas pour moi. Cette colère-là, elle n'était pas pour moi. C'est-à-dire que... Et j'étais là comme une sorte de punching ball. Mais ça ne m'était pas adressé personnellement. Même s'il prenait des arguments en disant ceci et cela, ça ne m'était pas adressé. Parce que, vraiment, on ne se connaissait pas. J'avais rien fait. Alors on évite en communauté, on est plus soft, mais il peut y avoir des colères. Mais justement, il y a un frère, par exemple, un frère qui se met souvent en colère, sans mots excessifs, mais il se met en colère. Mais du coup, on dit, il s'appelle Bernard, Père Bernard, tout doux. Parce que lui, c'est un hypersensible. Et après, je me rappelle très bien, j'étais à côté de lui, c'était pour une question de canalisation. Juste le truc qui ne te concerne pas. Je veux dire, ta vie n'est pas là, en danger. Je veux dire, si on faisait des travaux, le type, il avait fait des canalisations, puis il m'a dit, mais c'est quoi ? Il disait, il est très, très, très concret, qu'il s'y connaît en travaux, etc. Je dis, attendez, surtout comme religieux face à des entreprises, mais en colère, c'est l'autre qui doit tendre l'autre joue, tu vois ce que je veux dire, là ? Donc c'est chaud. Donc je me suis dit, bon, apaiser. Premièrement, prendre conscience qu'il y a quelque chose parfois de disproportionné en moi. Et de revenir dessus, de dire, tiens, pourquoi je suis monté dans... Pourquoi ça a été excessif comme relation, réaction ? Qu'est-ce qui a fait que... Au fond, qu'est-ce qui a fait que... face à cet ouvrier, c'était un ouvrier de terrassement qui posait une canalisation, voilà, bon, qui était là... il me voit moi en habit, etc. Donc on attend quand même des gens en habit, grosso modo, à peu près un truc à peu près correct, je veux dire, comme comportement, voilà, bon, pas un gros connard, etc. Donc bon, ben non, moi, c'est pas monté jusque-là, mais la colère est un symptôme. De quoi est-elle le symptôme ? De la souffrance. Et cette souffrance-là, laquelle est-ce ? Ensuite, il faut remonter, il faut sortir la bobine. D'où ça vient, cette souffrance-là ? Qu'est-ce qui fait que je réagis ? Je surréagis comme ça. Oui, mais là, la canalisation n'est pas d'honneur. Non, je prends un exemple concret. Là, c'est l'honneur, là, du coup, si on atteint mon honneur, c'est pas pareil. On est quand même dans un pays où il y a un état de droit, semble-t-il, qui n'est pas idéal, la justice, elle n'est pas idéale. Oui, mais est-ce que par le mal, je vais vaincre le mal ? C'est ça, c'est ce que dit saint Paul. Soyez vainqueurs du mal par le bien.
Donc on fait quoi ? On
écarte les jambes ? Non. Resserrez vos jambes, c'est bon. Donc, on n'a pas à se laisser entamer dans son intégrité comme le viol, comme se laisser taper dessus, comme manquer de respect. Je vous donne un exemple qui me touche personnellement. Mon frère. C'est un homme blessé, parce que le parcours de notre famille, bon, je ne rentre pas dans les détails, un parcours douloureux. Mais il n'a jamais fait de travail. C'est un homme intelligent, qui a été chef d'entreprise, qui a été... Bon, il a... Mais jamais il a pris le temps de travailler sur lui-même. Son péché, ce n'est peut-être pas sa colère. Surtout quand il s'adresse à ma sœur, c'est des hurlements, parfois des hurlements. Ma mère, qui a 90 ans... Et des hurlements aussi. Non, on n'a pas à se laisser traiter comme ça. Je lui ai dit, écoute, Philippe, non, tu ne peux pas nous manquer de respect à ce point-là. Manquer de respect à notre mère qui a 90 ans. C'est pas... Donc, non, je dis non. Et même s'il hurle, je continue à dire non. Je me positionne fermement face à quelqu'un qui... Bon, jusqu'à ce que ça retombe. Mais ce n'est pas en surenchérissant... C'est pas en prenant par le col et en lui mettant une. Ben alors, feu de l'action, mais il y a, un, le feu de l'action. Oui, non, mais il y a le premier mouvement, et ensuite, il y a le deuxième mouvement. Peut-être dans le feu de l'action, je suis excessif. Mais le feu de l'action m'a, quelque part, comment vous dire, m'a échappé. C'est plus fort que moi, quand on entend plus souvent cette expression, c'est plus fort que moi. Mais que le deuxième mouvement, qui est celui de l'humilité, ne vous échappe pas. Là, vous avez prise. Vous allez voir la personne, excuse-moi, j'ai été excessif dans mes paroles, dans mes gestes, etc.
Aller voir l'agresseur,
va s'excuser de dire, oui, l'agresseur, oui, celui qui m'a agressé, de dire, ben, excuse-moi. Moi, vous savez, j'ai toujours rêvé, ça n'est jamais arrivé, j'ai toujours rêvé que, comme aumônier de prison, il y ait la rencontre entre la victime et l'agresseur. C'est jamais arrivé. Pourquoi ça me paraît important ? Parce que ça me paraît important parce que pour que chacun voit l'autre comme une personne. Je vous donne un exemple. J'ai vécu des choses très belles. J'ai beaucoup aimé ce ministère-là, qui était rude, hein, avec des personnes très, très douloureusement, qui avaient vécu beaucoup de souffrances dans leur vie, de bidonvilles, etc. Tout ce qu'on peut imaginer avec un garçon addict à la drogue rentre dans une papeterie, tue le commerçant, vole 15 euros. Il se trouve que je retourne dans cette même papeterie et je fais des photocopies. Et dans les photocopies, c'était les bénéficiaires des familles des prisonniers qui bénéficiaient d'un panier du secours catholique. La personne regarde, il y avait une quinzaine de photocopies, elle regarde les noms. Et il dit, celui-là, il est toujours en prison. On dit oui, c'est l'assassin de mon père. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ça fait un an qu'il a été tué. Parce qu'il était juste commerçant. Pour 20 euros. Je vais voir le garçon en prison, je vais lui dire, j'ai rencontré la fille de celui que tu as tué. J'aimerais que tu lui écrives une lettre. J'y mets du temps. Je reviens des semaines, des mois. Il met du temps. Et il me donne la lettre. Une excellente lettre. Vraiment, une excellente lettre. Je l'attends à la jeune femme dont le papa a été tué, etc. Voilà, vous avez une lettre de cet homme qui a tué votre père pour 20 euros pour s'acheter de la drogue. Elle la regarde, je la mets sur le comptoir, ne la touche pas. Je lui dis, prenez-la, c'est une lettre de demande de pardon, c'est une lettre, vraiment, c'est une très belle lettre, d'un homme très peu éduqué, mais une très très belle lettre. Elle la prend finalement. Des mois après, je passe par cette même librairie, cette papeterie. Vous avez ouvert la lettre ? Je n'ai pas pu ouvrir la lettre. Donc, je n'ai jamais réussi à avoir un contact entre agresseur et agressé. Je n'ai jamais réussi. C'est un peu la grande souffrance de mon ministère. Je n'ai jamais réussi à ce que chacun... Et pourtant, cette femme-là, dont le papa a été tué, est une femme profondément catholique, priante, vraiment pratiquante, qui un grand amour à la Sainte Vierge, qui est vraiment une femme de foi. Elle dit, mon père, vous imaginez pas comme ma famille a été explosée avec ça. Ma mère en est morte de dépression. Ma sœur est dans un état lamentable. Toute la famille a explosé, tellement c'était violent. Je vais voir, j'ai un autre cas comme ça, deux hommes, deux frères célibataires, sans enfants, agriculteurs, et si vous voulez, en Argentine, les ventes se font beaucoup en cash, mais par des gros montants, 10 000, 20 000, 30 000 dollars, c'est en cash, en dollars. Et ils savaient qu'il allait avoir une transaction et qu'il allait vendre sa récolte, et qu'il allait avoir 50 000 dollars chez lui, en cash. Le type arrive, avec une arme, braque les deux frères, 70 et 72 ans, voilà. Lui, une grande baraque, une 35 ans. Il tue son frère, et il demande l'argent, etc. Et il part, semble-t-il, avec l'argent. Et je vais voir cet homme-là, le deuxième frère qui était resté vivant, etc., il me dit, moi, ma vie, elle est foutue. Vous savez, à la campagne, il faut être deux. Qui va m'atteler la charrette au tracteur ? Je vais descendre, monter, faire reculer le tracteur. Il faut être deux. Bon, frère et moi, on était des compagnons. Il avait 70 ans.
L'autre, il faisait de la muscu, etc. Donc, oui, j'en ai parlé à... Je lui ai dit, mais est-ce que vous seriez prêt à le rencontrer? Et je parle de quelqu'un de catholique, pratiquant. Il me dit, mon père, je suis catholique, je prie tous les jours. Je ne peux pas. Ma vie, elle est foutue maintenant. Je n'ai plus qu'à vendre mon exploitation agricole, c'est fini. Parce que paysan tout seul, ça ne le fait pas. Oui, j'entends et je ne suis pas... Qui suis-je pour juger? Non, personne n'a tué mon père dans un commerce, personne n'a tué mon grand-père agriculteur ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de sous... Voilà, mais je me dis, est-ce qu'il y a une autre solution que d'accueillir la colère de l'autre, en tout cas d'aller à la rencontre de l'autre? Je me rappelle, c'était aux États-Unis, il y a eu un procès comme ça très émouvant. Et pareil, un père dont le fils avait été tué par un type de la rue, voilà. Et le père lui dit, je hais le système qui t'a conduit à commettre ça. Ça, je le hais de toutes mes forces, mais toi non, je te pardonne. C'est quand même puissant, je veux dire, toi je te pardonne. Mais le système qui t'a conduit, c'est ce que Pape Jean-Paul II appelait la structure de péché. La structure de péché qui fait que on met des personnes dans des situations telles de dépendance, etc., qui les poussent à commettre de l'irréparable. Cette structure de péché, je la hais. Alors oui, on a le droit de se mettre en colère contre la structure de péché. Mais le fait d'accueillir la colère de l'autre, surtout, je pense que c'est quelque chose qui... Voilà, c'est... Eh bien, il faut qu'elle soit juste. Mais en même temps, je n'ai pas à me laisser détruire. Comment faire pour exprimer sa colère? J'ai un petit passage comme ça. Comment faire pour exprimer sa colère sans rompre la relation? Et quelque chose qui m'a beaucoup servi, peut-être que vous connaissez, c'est la communication non violente. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? La communication non violente, qui est très intéressante, où en fait, j'ai le droit de hurler mon besoin. Je hurle mon besoin de justice, mon besoin de connexion, mon besoin de reconnaissance. Je peux hurler, rugir mon besoin. Par exemple, une personne passe devant vous dans la queue. Vous êtes au cinéma, donc c'est un lieu de zéro, supposons de zéro tension, et la personne vous passe dans la queue devant. Et vous, vous êtes derrière. Comment réagir? Mais si vous hurlez, moi j'aimerais tellement un monde juste. Donc... C'est pas, on peut-être pas l'HP, non. Moi, j'aimerais tellement un monde juste. Et vous parlez avec la... Excusez-moi, mais... imaginons que ce soit un commerce. Ma mère est malade, je dois acheter du pain. Mais ce soit une boulangerie. Ah, ok, mais madame, pourquoi vous n'avez pas dit votre besoin? Pourquoi vous n'avez pas dit votre besoin? Besoin de connexion, de soutien. Oui, je trouve que c'est... Moi, je suis formé à la communication non violente et c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment.
Mais ça, c'est pour quelqu'un qui a des mots, qui a du vocabulaire, qui sait mettre
oui,
son émotion en phrase.
Mais il faut arriver à ça.
Ah, bah oui, non, mais tout le monde
non, mais...
arriver à mettre des mots quand il reçoit une émotion
impossible. Eh bien, c'est le travail. Je suis désolé. C'est intéressant. Entre Caïn et Abel. Oui, attendez. Entre Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn conduit Abel au champ et lui dit trois petits points. Attendez, il n'y a eu aucune parole. Entre Caïn et Abel, il n'y a eu aucune parole. C'est le manque de parole qui est violence. Et donc, le travail que nous avons à faire comme chrétiens, c'est faire advenir la parole. Patiemment, d'une personne qui est débordée par ses émotions de violence, de colère, de quoi qu'est-ce, et cette personne est capable au moins d'une parole qu'elle pourra écrire. J'ai visité, peut-être vous l'avez fait aussi, à Lourdes, mais c'est sœur Elvira. À Medjugorje. Et donc, c'est des garçons, c'était un truc pour les garçons compliqué, c'est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand ils avaient besoin de dire quelque chose l'un à l'autre, ils avaient les mains derrière le dos. En disant, j'ai besoin de te dire quelque chose. Déjà, rien que ça, c'était énorme. Il y avait un éduc qui était là, ou un bon volontaire, etc. Chacun main derrière le dos. Chacun avec énormément de violence. Et pouvait dire au moins quelque chose. La violence, c'est une non-parole. Mais ne me dites pas que c'est, à moins que ce soit une personne muette, mais elle peut au moins écrire. Mais c'est pas la question, c'est pas question d'être muet. C'est que ça déborde tellement. Ça déborde tellement que Caïn conduit Abel au champ et lui dit trois petits points. Pourquoi as-tu tué ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez, ce manque de parole, que chacun puisse parler et dire les choses, c'est possible. C'est juste possible. Et je pense que... En tout cas, j'ai bien apprécié dans cette communication non-violente d'exprimer sa colère sans rompre la réaction. Je peux très bien dire, j'ai tellement besoin d'un lien avec toi. Tu comptes tellement pour moi. C'est pas le tu qui tue, tu as fait cela, tu as fait cela. Ça, c'est zéro. Parce que ça, ça va à l'escalade symétrique et ça se termine par un point sur la gueule, etc. Non, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin d'un contact avec toi. Tu comptes pour moi. J'ai tellement besoin d'être respecté. J'ai tellement... Mais ça, ça prend parfois des années à dire ça. Et j'entends très bien. Ma question, est-ce qu'il y a un autre chemin? Alors, il y a des personnes qui sont toxiques. Des personnes, ce qu'on appelle un peu pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'elles jouissent de voir l'autre souffrir. C'est incurable. Pour moi, c'est incurable. Il faut foutre le camp.
C'est pas un peu enfermer la personne ?
Oui, mais je ne suis pas son sauveur. Je ne suis pas son sauveur. Je ne suis pas la personne. J'ai trop de liens. C'est mon frère, c'est mon mari, c'est mon enfant, c'est machin. J'ai trop de liens. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas la bonne personne. Et lui ne se tourne vers personne, ou elle ne se tourne vers personne pour se faire aider. Il y a aussi une responsabilité de l'agresseur. Il ne faut pas juste dire, ah ben oui, et on l'a trop bercé contre le mur, j'allais dire, du coup, il est un peu comme ça quand il était enfant. Non, on l'a trop... Oui, ouais, mais on n'est pas que victime. On n'est pas que victime. Oui, agresseur, victime, bourreau. C'est le triangle de Cartman. On n'est pas que victime. Et ça, je pense que c'est important de dire ça, que... J'ai aussi besoin du respect. Écoute, non, stop. Moi, je m'en vais. C'est pas possible. Et même dans le cas de couple, autant je crois au sacrement de mariage, etc., autant même dans le cas de couple, je dirais à une personne qui se fait tabasser, partez, partez, séparez-vous, protégez vos enfants. Et protégez-vous. On n'a pas vocation à être détruit. Et la violence verbale, bien sûr, violence verbale, de la langue, etc. La langue, bien sûr, bien sûr, c'est ça. Mais que soit le verbal est plus violent encore. Ah non, je suis bien habillé. Merci de prendre soin de moi. La nuque, mais les... Ah oui, je peux mettre le cachapuchon, alors. Je peux m'avancer, si vous voulez. Mais il faut trouver ce truc-là. Ouais. Mais voilà, donc... Non, mais... Oui, allez-y. Alors, que je... Oui, alors... Parce que, évidemment, c'est ce qu'on appelle les problèmes psychosomatiques. Vous faites peut-être allusion à ça. C'est-à-dire que... de dire que dans la colère, que... Si elle n'est pas, si je n'arrive pas à un apaisement, c'est le corps qui réagit. Le corps, lui, ne ment pas.
Le corps ne ment pas, ça réagit bien souvent par des problèmes cutanés de la peau. Ça peut être l'eczéma, ça peut agir par l'ulcère, ça peut réagir par des balles dans le dos, ça peut réagir par l'asthme, ça peut... parce qu'on est une unité à mes corps. Je suis pas médecin, mais il y a mille. C'est pour ça que je regrette que dans la médecine, on ne questionne pas non plus les questions émotionnelles. D'avoir une médecine globale, j'allais dire.
Holistique.
Oui, holistique, exactement, c'est le bon mot. D'avoir une médecine holistique, c'est une médecine qui voit le tout de la personne, hein. Et à mes corps et esprit. Et c'est vrai que. C'est vrai, des questions d'eczéma peuvent être juste dues ou des questions d'ulcère juste à des grandes colères. Et donc le problème, il est que symptomatique d'autres choses. Donc je pense que, voilà, donc en tout cas, je vous conseille tout un passage sur la communication. Maintenant, comment sortir de sa colère? Est-ce que ça vous intéresse? Comment? Il y a des teasers comme ça. Comment sortir de la colère? Il y a... Attention, accrochez-vous là. Vous basculez pas sur la... Parce que je sais que... Non. Tout le monde vous aime. Donc, du coup... Mais voilà, comment sortir de sa colère? Moi, évidemment, je pense à Elie Wiesel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Elie Wiesel. Elie Wiesel se fait porte-parole de ceux... qui accuse Dieu au moment de la Shoah, donc des camps de concentration, il dit « Béni soit le nom de l'Éternel, pourquoi le bénirais-je? Toutes mes fibres se révoltent. » Parce qu'on peut considérer Dieu comme un agresseur aussi. N'oubliez pas ça. Eh oui, parce qu'on peut considérer Dieu comme un ennemi. Parce que les psaumes sont remplis de ça. Dieu ne m'a pas préservé des mains de mon agresseur, donc c'est aussi lui mon agresseur.
Job.
On va y venir, Job. Job, que Dieu qui vocifère contre Dieu, qui hurle contre Job. Dieu. Mais je continue avec Elie Wiesel, parce qu'il faisait fonctionner six crématoires jour et nuit, le jour du Shabbat et le jour des fêtes, parce que sa puissance à lui, Dieu, a créé Auschwitz, Birkenau, Burna et toutes les usines de mort. Moi, le mystique de jadis, je pensais, oui, l'homme est plus fort, plus grand que Dieu. Parfois, on peut désespérer de Dieu face au mystère du mal, face à une structure de péché, s'il en est, comme celle-ci, qui est considérable. Mais c'est Elie Wiesel qui dit après les camps, je ne peux plus croire en Dieu. Mais après les camps, je ne peux plus ne plus croire en Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne peux plus ne plus croire en Dieu. C'est-à-dire que forcément Dieu existe, et en même temps j'ai éprouvé le fait qu'il n'existait pas. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit tiens, comment une telle colère face à un Dieu qui avait dit « Ta parole est vérité et ta loi délivrance ». Vous savez que ces malheureux arrivaient cousés dans leur manteau des morceaux de la parole de Dieu, hein, et des morceaux des psaumes. Dieu va nous délivrer. Donc ça, c'est le mystère du mal. Là, je pense qu'il faut rester muet, il faut rester juste face à ce mystère du mal tellement... Il n'y a plus de mots. Mais j'aimerais bien parler de Job. J'aimerais bien parler de Job parce que il traverse sa colère, lui. Il traverse sa colère dans le sens où il est sorti de sa colère par l'émerveillement. On ne peut pas vivre toute une vie. On ne peut pas. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu veut. À l'Ukraine, oui, oui. Mais on ne peut pas vivre toute sa vie. Cette guerre-là, un jour, elle aura une fin. Quand, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? Simone Veil, celle qui est l'origine de la loi, veille un peu controversée, etc. C'est une femme, elle disait, alors qu'elle était dans les camps, elle disait, comment nous allons pouvoir retrouver un lien avec les Allemands ? Alors qu'elle était dans les camps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller plus loin. Alors, ça demande d'avoir une grosse espérance, etc. Mais une foi, de dire que comment on va pouvoir retrouver... Et aujourd'hui, il faut dire que l'amitié franco-allemande, c'est un miracle. Aucun pays limitrophe, avec trois guerres successives, ne s'est réconcilié. Ça n'existe. Et parce que c'est des pays chrétiens qui ont été complètement évangélisés. Vous voyez, en Asie, par exemple, il n'y a jamais eu de demande de pardon entre le Japon et la Corée, alors que des milliers de femmes ont été envoyées en prostitution de Corée jusqu'au Japon. Il n'y a pas eu de procès de Nuremberg où on a vu ceux qui étaient au service de l'Axe, on appelle, voilà, qui luttaient à côté d'Hitler, etc. Il n'y a jamais eu de procès. Prenons conscience que le fait que nous soyons un pays chrétien rend possible une réconciliation. Et aujourd'hui, personne ne remettrait en cause l'amitié franco-allemande, par exemple. Alors, de façon plus personnelle, je pense qu'on ne peut pas rester que dans la violence. On ne peut pas rester que dans l'injustice. Il y a quelque chose en nous qui... Et j'aime bien ce livre de Job. Job, justement, qui dit, justement, qui est une métaphore, Job, donc il a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu ses biens, etc., etc. Et il dit, je sais que tu peux tout, il s'adresse à Dieu, je sais que tu peux tout, que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles hors de ma portée, je ne savais rien. Daigne écouter et moi je parlerai. Je vais interroger et tu m'instruiras. C'est par oui dire que je te connaissais. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et du coup, il rentre ensuite dans un émerveillement en disant, mais qui est-ce qu'a fait le monde ? Qui suis-je pour moi ne pas accueillir la beauté de la création, sortir de la colère par retisser des liens, crier son besoin, sortir de la colère par le haut, par la transcendance, par l'accueil au fond de la grandeur, de la beauté de Dieu. C'est un chemin. Parfois, on n'a pas assez d'une vie. Parce que les blessures sont telles, le sentiment d'injustice est tel. Mais en tout cas, ceux d'entre vous qui sont dans cet état-là, je leur dis, il y a un chemin. Et quand Jésus nous dit, je suis le chemin, eh bien il nous dit, moi je suis celui qui est capable d'apaiser ta colère. Je suis celui qui a pris les péchés du monde. Je suis celui qui a pris ta souffrance. Quand on te maltraitait, c'est moi qu'on maltraitait. Je suis à côté de toi.
Comment traverser sa colère ? Vous venez de suivre une conférence du père Pierre-Marie Castaños, enregistrée en juillet 2022 lors du Festival Marial de Notre-Dame du Lot.